À tout à l'heure.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Et ce matin, quelques armes pour repérer les sectes qui essaient de vous prendre dans leur filet. Environ un demi-million de Français vivraient sous l'emprise d'une secte, des groupes sectaires souvent puissants et influents, des petites structures également qui savent recruter via Internet, des gourous complotistes de toutes obédiences, en profitant de la faiblesse et de la vulnérabilité de tout un chacun à certains moments de notre vie, guérison miraculeuse quand on est atteint d'une maladie grave, promesse de bien-être et de bonheur quand on est au fond du trou, promesse de retrouver son énergie vitale quand on est au bout du rouleau, promesse de retrouver l'amour quand on est d'un cœur esselé. Grand Bien vous fasse se mobilise pour alerter contre le péril sectaire, contre ceux qui, en cette période anxiogène, vous promettent le bien et qui font du mal. Comment avez-vous échappé à l'emprise? Connaissez-vous des proches pris dans les filets d'une secte? Quels sont vos conseils pour y échapper? 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Parfois, l'entourage même ne sait pas exactement que la personne est aux prises avec une dérive sectaire.
La pandémie, c'est du pain béni pour les gourous.
Ce qui existe aujourd'hui n'aurait pas pu exister il y a 30 ans.
En fait, il y a vraiment un très très gros discours réactionnaire.
Souvent, l'entourage vient nous voir trop tard.
Les pouvoirs publics ont baissé la garde.
Extrait d'une vidéo du Point en 2021. Bonjour Jean-Loup Adenor.
Bonjour.
Bonjour Timothée de Roglaudre.
Bonjour.
Vous publiez ensemble, vous êtes journaliste, vous publiez ensemble chez Robert Laffont, le nouveau péril sectaire. Bonjour Christian Gravel.
Bonjour Ali Rébéi.
Vous êtes préfet, vous présidez la MIVILUD, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Quelles sont les missions de cet organisme gouvernemental ?
La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la MIVILUD, est le service de l'État chargé d'incarner la politique publique de protection contre les dérives sectaires. Il y a trois missions principales. La première, c'est celle d'observer, d'analyser l'ensemble des groupuscules, des doctrines, tous les discours qui peuvent évoluer sur la question précisément de l'emprise sectaire et des dérives sectaires. La deuxième mission, c'est celle de la coordination de l'action de prévention et de lutte contre ces phénomènes-là à travers un travail étroit, notamment avec les services de la police, de la gendarmerie, bien évidemment en lien étroit avec l'autorité judiciaire, en mettant en avant aussi des questions liées à la formation de l'ensemble des acteurs. Enfin, la troisième mission, c'est celle de l'écoute, de l'accueil et de l'accompagnement des victimes qui va être, je crois, au cœur de cette émission ce matin.
Alors, pour le Robert, une secte, c'est un groupe d'inspiration religieuse ou mystique vivant en communauté sous l'influence de maîtres, de gourous. Secte vient notamment du latin sécare qui signifie couper. Qu'est-ce qu'une secte au terme de votre enquête, Jean-Loup Adenor ?
Alors, nous, on n'utilise pas le terme de secte pour plusieurs raisons, notamment parce qu'en fait, on s'est attaché surtout à comprendre les mécanismes qui étaient à l'œuvre et les préjudices et les dommages que pouvaient subir les personnes qui passent par des groupes donc à tendance sectaire, à caractère sectaire ou présentant des risques de dérive sectaire. Faire des listes ou essayer de caser certains groupes dans une catégorie de secte, ça a déjà été fait. C'était un peu l'approche qu'il y avait dans les années 90, avec notamment une commission parlementaire à l'époque qui travaillait sur la question des dérives sectaires, et puis l'ancêtre de la MIVILUD qui était la MILS. Et puis ça, on s'est rendu compte à l'époque que c'était plutôt une mauvaise idée, parce que non seulement les groupes qui faisaient partie de ces listes qui avaient été arrêtées par la commission parlementaire se martyrisaient en utilisant ces groupes-là, en criant à l'atteinte à la laïcité ou à ce genre de choses. Et les groupes qui n'y étaient pas, eux, avaient un peu un blanc-seing, ou en tout cas se refaisaient une virginité sur le fait de ne pas apparaître dans ces listes.
Et pour compléter la définition que donne le dictionnaire est très intéressante, parce que on voit bien qu'elle est complètement inopérante par rapport à la réalité aujourd'hui des dérives sectaires. Par exemple, on parle de religieux ou de mystique. Nous, on a plusieurs chapitres dans le livre qui n'ont rien à voir ni avec la religion ni avec le mysticisme. Et de la même façon, sur l'étymologie sécare, nous, on propose une typologie entre deux types de mouvements. Des mouvements qu'on appelle isolationnistes, donc qui vont vraiment se couper de la société, et des mouvements plus expansionnistes qui vont chercher à avoir une influence sur la société, donc qui ne vivent pas coupés du reste du monde.
Christian Gravel, qu'est-ce qu'une secte pour la Miviludes ?
Il n'y a pas de définition officielle pour deux raisons. Une première raison qui est fondamentale, qui est celle du respect de nos principes fondateurs, de nos principes constitutionnels, de liberté, de conscience, d'opinion, de croyance, évidemment s'inscrivant aussi dans le cadre de la laïcité. Il fait que chacun est libre, dans la sphère privée, de croire ce qu'il veut. Ce point est quand même fondamental. Au-delà de ça, évidemment, l'État, la loi, vise par contre tout ce qui relève des dérives sectaires, de dérives potentiellement problématiques, toxiques, pouvant se traduire par des préjudices, caractères psychologiques, physiques ou financiers, pour prendre que cela. Après, il y a une autre raison pragmatique, qui est que aujourd'hui, à l'ère de la révolution numérique, notamment, le fait qu'il y ait une profusion d'acteurs, d'entrepreneurs, d'emprises mentales s'inscrivant dans cette logique-là, il serait effectivement, comme ça a été rappelé à l'instant par les deux journalistes, très compliqué d'avoir une liste à jour, sachant que les formes, les acteurs évoluent constamment. Donc il y a cette nébuleuse à prendre en considération, et encore une fois, c'est par pragmatisme qu'on préfère rester simplement sur le constat qu'il s'agit de prouver, en fonction du droit, des dérives qu'on appelle sectaires.
Et on l'a vu là pendant la pandémie, le discours sectaire a évolué, c'est très difficile, c'est ce que dit le préfet Gravel est très juste, c'est très difficile aujourd'hui de considérer un groupe comme étant entièrement, absolument et définitivement sectaire, et des discours qui ne le sont pas, parce qu'ils ne sont pas dans un groupe structuré, parce que on a des discours qui circulent sur Internet, sur YouTube, on a des emprises qui se font de façon différente que par le passé, donc c'est vrai que le phénomène évolue et que cette définition de dérive sectaire permet de tenir compte de cette évolution-là.
Et d'ailleurs, quels sont les critères de la Miviludes pour qualifier une dérive sectaire ?
Alors, nous avons déterminé 10 critères qu'il s'agit à chaque fois d'étudier avec recul, avec discernement. Et c'est la combinaison de ces critères qui fait qu'on va qualifier ou pas une organisation de sectaires.
Alors je vais en citer quelques-uns de ces critères, la déstabilisation mentale, ouais, le caractère exorbitant des exigences financières, la rupture avec l'environnement d'origine, l'existence d'atteinte à l'intégrité physique, l'embrigadement des enfants, le discours antisocial, les troubles à l'ordre public, l'éventuel détournement des circuits économiques traditionnels ou encore les tentatives d'infiltration des pouvoirs publics.
Alors, c'est des critères qui sont intéressants et qui nous ont permis à nous de mener notre travail. Mais je crois qu'il faut aussi mettre un critère, en tout cas une façon de concevoir l'emprise sectaire par l'abolition de la pensée critique. On le voit dans les personnes qui passent dans ces groupes-là, et on le voit notamment beaucoup sur les questions de santé et d'alimentation aujourd'hui, où certaines personnes vont en fait croire complètement le discours miraculeux d'une personne, hein, et ne plus réussir à penser par elle-même. Donc cette pensée critique est importante pour se prémunir des sectes.
Il y a quelque chose qui revient assez souvent dans les témoignages qu'on a recueillis dans le livre, donc on en a recueilli une trentaine dans des groupes extrêmement différents, c'est qu'à partir du moment où l'adepte est happé par le groupe, en fait, puisqu'il y a une phase de séduction, il va devenir impossible pour lui de remettre en cause la doctrine du groupe. Donc par exemple, à partir du moment où l'adepte va essayer de critiquer tel ou tel aspect de la doctrine, on va lui dire tu es trop intellectuel, tu devrais faire un travail sur toi-même. C'est des mécanismes de culpabilisation qui amènent, comme disait Jean-Loup, à l'annihilation de l'esprit critique qui, pour nous, est vraiment le cœur de l'emprise.
Je partage totalement, puisque cet élément-là apparaît dans ce qu'on a appelé la déstabilisation mentale, avec ce facteur majeur, qui est celui, effectivement, de l'annihilation de toute forme d'esprit critique. Je fais mien, évidemment, ces termes-là, puisque c'est ce qui va permettre de déqualifier la bascule vers ce qui relève d'une emprise totale et d'une disparition de toute forme de discernement, pour le coup.
Alors, il faut rappeler que, juridiquement, une dérive sectaire peut se caractériser par un abus de faiblesse, un exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie, une escroquerie financière ou encore une agression sexuelle, voire également des discriminations. Jean-Louis Adenor, Timothée de Roglodre, j'aime beaucoup la citation du journaliste Alain Voudreau en exergue de votre livre. Je la cite, « Les sectes sont des clignotants qui signalent un défaut dans les circuits de notre civilisation matérialiste ».
Oui, nous on a choisi cette citation parce qu'en fait elle date des années 70, donc une période où les pouvoirs publics avaient même pas encore pris conscience du phénomène, mais déjà il y avait une analyse assez fine de ce journaliste qui rejoint ce qu'on dit aujourd'hui, qui est qu'en fait les dérives sectaires sont plus sont souvent un symptôme de quelque chose. Donc nous, on propose plusieurs hypothèses, un symptôme de carence de l'État ou de la République sur certaines thématiques, sur l'inclusion des enfants à besoins spécifiques dans l'éducation, sur la question de l'humanité dans la médecine, de comment on annonce à une personne que son cancer est en phase terminale et que la médecine ne peut plus rien pour elle. Ça, c'est un cas qu'on rapporte dans le livre où un médecin dit ça à une personne atteinte du cancer, et à partir de là, en fait, elle se tourne vers des thérapies alternatives puisqu'elle a plus d'autres. On lui dit ça avec tellement de violence qu'en fait, elle a plus d'autres solutions.
Allez, nous accueillons Nassera. Bonjour Nassera.
Bonjour à vous, Ali, et à toute votre équipe. Merci infiniment.
Quelle est votre question, Nassera?
Alors ma question concerne ma belle-mère. Je voulais savoir jusqu'où on doit s'en inquiéter, son fils et moi-même, enfin la famille, parce que ça remonte à de longues années. Hein, où ma belle-mère rencontre un monsieur qui s'appelle donc Lou Blanc, qui est basé dans le sud-ouest, visiblement tourné vers du chamanisme, mais pas seulement malheureusement, d'après ce qui vient un peu à nos oreilles, ce qu'on a compris. Jusque-là, nous, ça nous inquiétait pas plus que ça, hein, même si ce portrait de monsieur est omniprésent, on va dire, à l'intérieur. C'est ce revirement de situation qui est assez surprenant. Et il y a 3 mois en arrière, pardonnez-moi, j'ai un peu beaucoup d'émotions quand même, parce que de ce que j'ai écouté auparavant, croyez-moi, c'est un petit peu, ça donne pas beaucoup d'espoir.
On va vous donner de l'espoir, Nassera, on va vous donner de l'espoir ce matin.
Merci infiniment. Et donc, elle a décidé, ma belle-mère, donc, qui a 78 ans, qui, je précise vraiment, est importante, c'est une scientifique, à la base, qui travaille, voilà, elle est encore prof émérite. Elle a décidé, voilà, d'aller dans le sud-ouest, déménager, alors pour nous, un petit peu nous faire avaler le truc, elle nous dit que c'est pour une année. Mais nous, on a bien compris, ça fait des années qu'elle est là-dedans. Et c'est vrai qu'il y avait des situations d'intolérance, que ce soit alimentaire, le vaccin, n'en parlons pas, pas vacciné, puis non, pas. Elle a dit, je viens, à 2 conditions, on ne parle pas de vaccin et on ne parle pas de où je vais habiter quand je vends ma maison. Voilà.
Et qu'est-ce que vous avez constaté du point de vue de l'emprise de votre belle-mère, Nassera?
Il n'y a plus de discussion. On peut pas, enfin, ce sujet, il faut pas, la moindre critique n'est pas acceptable. Effectivement, elle dit qu'on est trop intellectuel ou je ne sais pas comment. Moi, je suis infirmière, alors elle n'est pas du tout dans ce domaine-là. On va dire, elle n'accroche pas du tout. On est trop dans le soin, l'agressivité, tout ça. Il ne faut pas donner d'antibiotiques, il ne faut pas rien prendre. Voilà, le soin... Et toujours pour les sujets à polémique, l'alimentation notamment. Et moi, c'est vrai que comme je dis, c'est dommage si cette personne s'avère, on va dire, bienveillante et qui, je dirais, on va vers de la sérénité, pourquoi pas. Mais moi, de ce que je vois de ma belle-mère, elle est très, très tourmentée. Il n'y a pas une fois où on part pas malheureusement avec, comme on dit, la boule au ventre, quoi. Ça se finit toujours. Il faut être de son avis. Si on n'est pas de son avis, ça passe pas. Mmh. Et le souci, c'est que, comme je dis, c'est des gens quand même qui ont de l'intellect, quoi. C'est pas le savoir qui manque, hein.
C'est très intéressant ce que vous dites, Nassera, parce qu'une idée reçue voudrait que l'emprise sectaire touche forcément les plus fragiles, les plus démunis. Et on le voit bien avec le témoignage très intéressant de Nassera, c'est que toutes les classes sociales sont concernées. Sauf que les publics varient en fonction du courant de pensée, Timothée de Roglaudre.
Oui, exactement. En fait, nous, encore une fois, on propose une typologie entre des mouvements plutôt élitaires qui vont recruter dans les milieux d'affaires, par exemple la scientologie, ou dans la bourgeoisie urbaine soucieuse de son bien-être. Donc ça va plutôt être le mouvement New Age ou l'anthroposophie. Et de l'autre côté, des mouvements plus populaires qui vont profiter du retrait de l'État dans les quartiers populaires pour proposer par exemple ce qu'on appelle un évangile de la prospérité dans certains mouvements évangéliques radicaux où en fait on va expliquer à l'adepte que s'il donne 100 euros à l'Église, Dieu va lui rendre son don au centuple, etc. Mais tous ces mouvements recréent toujours ou très souvent une forme de système pyramidal, en fait.
Très hiérarchisé. Et ce qui relie toutes ces sectes, c'est qu'elles écrasent les possibilités d'émancipation des individus.
Oui, bah ça rejoint ce qu'on disait avant, c'est-à-dire l'annihilation de l'esprit critique. Et sur le témoignage de Nacera était très intéressant parce que on retrouve un rejet de la médecine conventionnelle, on retrouve un rejet du vaccin,
et on retrouve la charismatique aussi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que cette dame, visiblement, son processus, si évidemment on n'est pas là pour distribuer les bons ou les mauvais points aux personnes, et c'est pas l'idée, mais si cette personne se rapproche aujourd'hui de ce qu'on appelle le chamanisme, dont on sait qu'il représente une porte d'entrée dans ce type de dérive, c'est aussi parce que le Covid a eu un impact sur la confiance en la médecine, sur les notions de santé, et que beaucoup de gens ont peur, en fait, même des scientifiques, même des personnes qui sont médecins ou infirmières.
Soyons concrets, soyons pratiques, Christian Gravel, comment aider Nacera qui est désespérée, comment on peut l'aider, quelles sont les notes d'espoir pour l'aider et pour aider sa famille?
Déjà, j'aimerais juste réagir effectivement sur le témoignage de Nacera, en la remerciant d'avoir eu le courage de prendre la parole, et je pense que c'est important parce qu'il y a besoin de libérer la parole. Il y a vraiment besoin que on puisse faire en sorte que ce sujet soit évoqué absolument partout, puisque vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, ce phénomène touche absolument tous les territoires et toutes les couches sociales. Et ce que disait madame était important sur le fait que sa belle-mère est relativement âgée, donc elle a de l'expérience. Elle est scientifique, elle a reçu un cursus scientifique, et ce qui démontre la perversité de ces réseaux-là et la force de ces gourous, à savoir la capacité, avec intelligence, de travailler sur des biais cognitifs permettant d'inverser la charge de responsabilité, d'inverser, et là on en revient aussi avec la force de la rhétorique conspirationniste qu'on retrouve absolument partout désormais, et essentiellement sur les réseaux sociaux, et qui vient appuyer le discours de rupture, et qui malheureusement, avec là aussi un élément conjoncturel important qui est celui de la crise sanitaire, qui a permis là aussi de démultiplier les opportunités pour ces entrepreneurs-là d'aller capter l'attention d'un public vulnérable, fragile et qui a peur.
Comment aider Nacera ?
Pour répondre à votre question, d'une part, je tiens à lui dire que il faut impérativement maintenir le contact avec sa belle-mère. Ce qui est difficile, parce que dans le cadre des discussions qui peuvent tourner court, les disputes, la rupture, là aussi, est prévisible. Et il faut absolument pas fermer cette dernière porte, faire en sorte qu'on puisse maintenir le lien en mesurant la manière de pouvoir aborder tel ou tel sujet avant d'envisager, en fonction des circonstances, en fonction des discussions, de pouvoir aborder par petites couches ces discussions-là. Après, ce que je lui conseille très concrètement, parce qu'on va pas aborder ce cas-là comme les autres en détail, c'est de prendre la tâche de la Miviludes. Il y a un site qui s'appelle dérive-secte.gouv.fr qu'on pourra sans doute mettre sur votre site, sur France Inter, et qui a vocation de mettre en contact avec l'équipe de conseillers, d'experts à la Miviludes, qui, chacun étant spécialisé dans leur domaine respectif, sont en mesure d'écouter, d'accompagner les victimes et les familles de victimes.
Merci beaucoup Nacera, et bon courage à vous, et merci de nous avoir appelés. Alors Jean-Louis Adenor, Timothée de Roglodre, qu'est-ce qui a changé depuis les années 80-90, depuis la secte Moon, l'ordre du Temple solaire, qu'est-ce qui a changé là aujourd'hui en 2021?
Alors il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a des choses qui sont restées une réalité, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelques mouvements d'envergure internationale qui sont très puissants, qui sont structurés autour d'un leader autoritaire et qui ont développé une capacité à s'infiltrer dans certaines sphères de la société, à s'infiltrer dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'éducation et même parfois dans les pouvoirs publics. Donc parmi ces mouvements historique qu'on cite, on parle de la scientologie, des témoins de Jéhovah, de l'anthroposophie, mais à côté, en fait,
c'est quoi l'anthroposophie en quelques mots, parce qu'on va en reparler tout à l'heure.
Alors l'anthroposophie, c'est un mouvement ésotérique qui a été créé au début du XXe siècle par un Autrichien qui s'appelait Rudolf Steiner, qui prétendait en fait parler aux forces invisibles du monde, et qui a repris un petit peu dans une forme de mouvement précurseur du New Age, qui a récupéré des spiritualités un peu partout dans le monde, le karma, les gnomes et les ondines, le démon Lucifer, le démon Ahriman. Il a créé une espèce de nouveau panthéon et a développé des théories en fait pour chaque sphère sociale. Donc il a, par exemple, dans l'éducation, il a développé la pédagogie Steiner-Waldorf, dont on parle pas mal dans le livre. L'agriculture biodynamique aussi est issue de ses intuitions mystiques, selon lesquelles le cosmos ou les astres pouvaient avoir une influence sur la croissance des plantes. Il y a aussi dans le domaine de la finance éthique, malheureusement, la NEF qui est étiquetée comme une banque éthique, en fait, est d'inspiration anthroposophique. Elle a été créée à l'origine pour financer des écoles Steiner et des projets en biodynamie.
Le label Déméter, par exemple, est inspiré de cette doctrine anthroposophique, par exemple.
Ah oui, complètement.
Qu'on retrouve dans les magasins bio, notamment.
Oui, complètement. Il y a un cahier des charges qui est très clairement biodynamique. On peut pas avoir le label Déméter sans pratiquer une agriculture biodynamique. Alors après, évidemment, il y a différents niveaux. C'est-à-dire qu'il y a des agriculteurs biodynamiques qui ont une pratique un peu sécularisée, qui suivent les préparations biodynamiques un peu par confiance, sans savoir en fait la charge ésotérique qu'il y a derrière, et le fait que pour les agriculteurs biodynamiques les plus chevronnés, des êtres élémentaux, donc gnomes ou ondines, se cachent dans les plantes, et quand on regarde les préparations biodynamiques, on parle de vessie de cerf, on parle de bouse de vache mise dans des cornes de vache, et tout ça remonte aux intuitions de Rudolf Steiner dans les années 1920, qui n'avait jamais mis les pieds dans un champ.
Par exemple, la marque Velleda que vous citez dans votre livre, elle est liée à ce mouvement anthroposophique.
Oui, puisque une grosse partie de son capital est détenue par des structures anthroposophiques en Suisse, et elle suit effectivement également le cahier des charges biodynamique. Et par exemple, il y a un médicament qui était commercialisé, qui a été normalement retiré du marché, qui s'appelle l'Iscador, et qui en fait est un extrait de gui fermenté censé soigner le cancer, pour la seule raison que Rudolf Steiner, en 1917, a eu l'intuition que le gui pouvait soigner le cancer.
Christian Gravel, sur ce mouvement anthroposophique, est-ce que la Mivilude surveille ce mouvement ?
On suit attentivement l'évolution de ce mouvement, puisque nous avons été régulièrement saisis à ce sujet-là. On est pleinement conscience de la potentielle dangerosité de tout l'environnement qui peut y avoir autour de l'anthroposophie. Je pense notamment aux écoles Steiner, puisque là aussi, nous avons reçu un certain nombre de témoignages, et nous avons évidemment vocation à assurer le suivi sous tous les plans concernant ce mouvement-là.
Allez, on s'intéresse donc aux dérives des sectes dans cette émission. En attendant de continuer sur ce thème, on écoute Stevie Wonder. Spending most of their lives living in a pastime paradise. And spending most of their lives living in a pastime paradise. And wasting most of their time glorifying days long gone behind. And wasting most of their days in remembrance of ignorant soul disgrace. Tell me who are they? Dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world. And spending most of their lives living in a future paradise. And spending most of their lives living in a future paradise. They've been looking in their minds for the day. Sorrow's lost from time. They keep telling of the day when the Savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be. How many of them are you and me? Proclamation, gracefulation, consolation, integration, verification of revelation, acclamation, world salvation, vibration, stimulation,
information to peace of the world. They've been spending most of their lives living in the pastime paradise. They've been spending most of their lives living in the pastime paradise. They've been spending most of their lives living in a future
Wonder, Pastime Paradise.
Grand bien vous fasse. Ali Rebbi. Sur France Inter.
10h32, comment lutter contre les sectes, c'est notre thème ce matin. Standard ouvert au 01 45 24 7000, sans oublier de nous laisser une note vocale sur l'appli France Inter.
Eux se considèrent plutôt comme des adeptes de la médecine alternative, médecine douce, médecine naturelle. Ils disent aussi médecine complémentaire. Et depuis l'apparition du Covid, ils ont réorienté, adapté leur discours. Parmi les promesses, les recettes de guérison, il y a celle de Thierry Casasnovas. Cela fait 10 ans que cet autodidacte réalise des vidéos sur YouTube dans lesquelles il prodigue ses conseils santé.
Coronavirus, hein, si j'étais ministre de la Santé, moi ça serait réglé rapido. Bain froid et jeûne pour tout le monde. Un petit peu de jus de carotte et vas-y que je t'envoie.
Extrait de France Info. Alors vous débutez, Jean-Louis Adenor, Timothée Droglo, dans votre livre avec ce youtubeur, entrepreneur, Thierry Casasnovas, âgé de 47 ans. Présentez-nous en quelques mots le credo de cet adepte du crudivorisme.
Alors, Thierry Casasnovas, c'est ce qu'on a un nouveau gourou entre guillemets. Enfin, c'est une personne qui incarne bien les nouvelles dérives sectaires, en l'occurrence dérives thérapeutiques liées à l'alimentation et à la question de la santé. Alors, il a beaucoup fait parler de lui pendant la pandémie de Covid, mais en réalité, on le suivait depuis quelques temps déjà, et ça fait une dizaine d'années qu'il fait des vidéos et qu'il essaie d'alpaguer les gens sur la question de la médecine. Alors, qu'est-ce que c'est que le credo de Thierry Casasnovas? En fait, c'est quelqu'un qui croit à la régénération, qui considère que la médecine et l'industrie pharmaceutique mentent aux gens et les rendent malades, qu'il n'y a pas de maladie mais uniquement des symptômes et qu'avec une bonne alimentation et un bon mode de vie, on ne serait jamais malade.
Ce qui est pernicieux, c'est qu'il débite des conseils qui revêtent souvent l'apparence du bon sens.
Exactement. En fait, c'est ce que nous ont dit beaucoup de gens à qui on a interrogé sur Casasnovas. En fait, personne n'a attendu Thierry Casasnovas pour se dire qu'il fallait manger de façon saine, dans des proportions raisonnables, et éviter de manger, par exemple, trop de viande, des choses comme ça. Ce sont des conseils de bon sens. Mais ce qui est différent avec Thierry Casasnovas, c'est la radicalité du propos, en fait. C'est-à-dire que Thierry Casasnovas va pas simplement dire éviter de manger ceci, manger plutôt cela. Par ailleurs, je rappelle qu'il a absolument aucun titre lui permettant de dire ça. Quand même, c'est important quand même de le rappeler.
Pas de formation scientifique.
Pas de formation scientifique. Il l'admet d'ailleurs lui-même assez facilement. C'est la radicalité de son propos, c'est de dire qu'en fait il faut se contraindre à ce type de régime et surtout ne plus résister au discours scientifique et médical classique. Et on voit ce que ça donne pendant la pandémie quand il explique que s'il était ministre de la Santé, ce serait vite réglé.
Timothée Droglo.
Oui, alors il est aussi, il est d'autant plus représentatif des nouvelles dérives sectaires qu'en fait, derrière l'aspect sanitaire, alimentaire qui est là pour attirer son public, il y a aussi un aspect spirituel un peu plus dissimulé parce que Thierry Casasnovas s'est converti au christianisme évangélique et il raconte son histoire presque comme l'histoire d'un miraculé puisqu'il a frôlé la mort en fait à l'âge de 33 ans, donc il insiste bien parce que l'âge du Christ.
C'est la légende de Casasnovas. C'est vrai qu'on peut aussi évoquer ça. C'est son incroyable résurrection entre guillemets ou sa régénération. Il explique qu'il a été très malade, c'est ce que Timothée expliquait. Il explique qu'il a été très malade et que il a eu un genre de rêve ou une illumination, une épiphanie qui lui a expliqué comment sortir de sa maladie. Et il a changé son alimentation et il a guéri. Et c'est ça qu'il vient aujourd'hui proposer aux autres.
Il a fait arrêter des traitements médicamenteux à certains de ses adeptes.
Alors, il y a deux choses sur Thierry Garnas Novas, c'est que c'est un des groupes sur lesquels on a eu le plus de mal à travailler parce que on s'est rendu compte que beaucoup de gens avaient peur. Je pense que le préfet Gravel pourra en dire un mot à la suite. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'au moins une personne dont l'affaire et le cas est sorti dans la presse a arrêté son traitement. Donc c'est un jeune diabétique de type 2, je crois, de mémoire, qui après avoir regardé les vidéos de Thierry Garnas Novas, a décidé d'arrêter son insuline et s'est retrouvé rapidement à l'hôpital. Et en fait, on voit que c'est sur ce type de pathologie-là que prospère le discours de Thierry Garnas Novas, parce que le diabète, c'est quelque chose qui est très contraignant, et l'insuline, c'est quelque chose qui est très contraignant. Donc forcément, un remède miraculeux va venir satisfaire les personnes qui cherchent à sortir de ce type de traitement.
Alors, le parquet de Perpignan a ouvert une information judiciaire contre Thierry Garnas Novas pour abus de faiblesse, escroquerie, exercice illégal de la médecine et de la pharmacie, mise en danger délibérée d'autrui. Christian Gravel, président de la Mivilude.
La justice fait son travail et nous sommes là pour accompagner ce travail-là à travers les saisines dont nous pouvons faire l'objet. Et j'invite tous les auditeurs, témoins, victimes, directes ou indirectes de ces phénomènes-là, à nous saisir pour pouvoir, encore une fois, les accompagner sous tous les champs administratifs, d'un point de vue psychologique aussi, à travers les associations qui font un travail remarquable, avec lesquelles on travaille, et avec, bien évidemment, la justice. Garnas Novas, c'est le prototype du nouveau gourou et des nouvelles dérives sectaires, qui à la fois joue sur un discours, une rhétorique teintée d'ésotérisme, ça a été dit à l'instant, mise sur ce qui relève aujourd'hui du pan le plus important des saisines dont on fait l'objet, à savoir tout ce qui relève du champ de la santé et du bien-être. Avec évidemment, encore une fois, là, la crise sanitaire qui a eu un impact assez phénoménal en termes de démultiplication des cas de ce type-là. Il joue aussi sur la force, ce que j'évoquais tout à l'heure rapidement, des thèses conspirationnistes, visant à délégitimer toute forme d'affirmation, de thèse, de position portée par les institutions, pour mieux substituer sa vision du monde, en l'occurrence là sa vision pseudo-thérapeutique, pour imposer derrière tout simplement son business et faire en sorte qu'il puisse, puisque nous avons eu aussi des témoignages de ce type-là, s'inscrire dans de l'emprise mentale pure et dure. C'est-à-dire qu'on a des adeptes qui effectivement, c'était rappelé à l'instant par les journalistes, sont totalement sous emprise. Et quand certains commencent à se réveiller, ils ont peur de parler. D'où l'intérêt de les inciter, de les accompagner et les aider justement à sortir de ce joug-là.
Alors, sous le feu des critiques, Thierry Garnas Novas a supprimé la moitié des 1500 vidéos de sa chaîne YouTube. Comment ne pas se laisser prendre par ce type de discours, Jean-Louis Adenauer?
Alors, on a une chance quand même aujourd'hui, c'est qu'on a des gens qui s'intéressent à ce type de dérive, à ce type de profil, et qui vont faire ce qu'on appelle un fact-checking assez rigoureux de ce qui est proposé sur YouTube. Donc moi, j'invite les gens qui s'intéressent aux questions de santé, d'alimentation, qui sont tentés par un régime particulier, par un discours particulier, à se renseigner en dehors des canaux de ces groupes-là. Ça, c'est important vraiment de le faire. Il y a assez de documentation aujourd'hui. Je pense à des collectifs comme l'Extracteur, comme NoFakeMed, qui font un super travail de prévention, qui font un travail qui est bénévole et qui est très lourd et qui suivent des personnes qui proposent un discours thérapeutique en essayant de montrer, en essayant de convaincre les gens de l'incompétence, vraiment, de la méconnaissance du sujet de ces personnes-là.
L'Extracteur, No Fake Made.
Absolument.
Tiens, on écoute un individu un peu particulier.
Salut à toi, jeune entrepreneur. Savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses? Alors, est-ce que tu veux en faire partie? Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours, ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto.
Fais le bon choix. Bisous.
Alors Jean-Louis Adenauer, Timothée de Roglodre, vous pointez du doigt les sectes financières, un système pyramidal. On vient d'entendre Jean-Pierre Fanguin. Présentez-nous ce jeune homme dont la vidéo publiée en juin 2020 a été largement relayée et, il faut le dire, souvent moquée. En quoi est-ce une dérive sectaire ?
Alors la vidéo en elle-même n'est pas une dérive sectaire, et ça avait fait rire beaucoup de monde.
Oui.
Même la ministre Marlène Schiappa avait repris la formule « Salut à toi, jeune entrepreneur » sur TikTok. Mais en réalité, c'est ce qui se cache derrière qui est inquiétant. Parce que ce Jean-Pierre Fanguin, ça a été démontré par plusieurs journalistes, a servi de rabatteur pour un groupe donc qui n'est pas référencé enregistré en France en tant que qu'entreprise, mais qui a une existence légale à Dubaï et qui en fait vise des jeunes donc de 16 à 25 ans, c'est un public extrêmement jeune, en leur faisant miroiter des communautés d'éducation financière dans lesquelles ils vont pouvoir apprendre le trading en ligne, les crypto-monnaies, etc.
Mais et en devenir en fait millionnaire
extrêmement rapidement. Donc c'est déjà ce qu'on peut dire déjà, c'est que c'est une arnaque, parce qu'en fait derrière il y a ce qu'on appelle de la vente pyramidale où en fait l'activité du groupe n'est pas le trading en soi, mais le fait de faire rentrer de nouveaux adeptes pour faire rentrer de l'argent dans le système. Et ce qu'il y a de sectaire derrière, et c'est là que c'est un petit peu compliqué à saisir, mais c'est que d'abord il y a une vision en rupture avec la société, c'est-à-dire vous allez intégrer une élite, l'élite des 1% ou des 5% d'investisseurs qui se fait pas pigeonner comme les 95% d'esclaves salariés, etc. Et surtout l'investissement demandé à ces jeunes à travers des groupes Telegram, des appels, des calls, etc. Il y a un discours entrepreneurial à l'américaine qui est reprise. En fait, cet investissement va être tellement envahissant que le jeune va y consacrer sa vie, va délaisser ses études, etc. Et surtout va être coupé de son entourage, puisqu'il est incité à recruter son entourage, donc il l'envisage plus que sous l'angle du prosélytisme. Dès qu'une personne dans son entourage va remettre en question ce qu'il fait en disant attention, c'est peut-être une arnaque, les leaders du groupe vont dire mais non, c'est un mauvais mindset,
ça veut dire quoi?
Mindset, c'est état d'esprit, c'est un terme qui est repris en permanence et qui vient aussi du monde de l'entreprise, mais voilà, il y a ce risque de rupture avec l'entourage qui est extrêmement fort.
Comment lutter contre ce type de dérive sectaire très particulière?
En fait, comme tout type de dérive sectaire, c'est d'abord confronter le message qui est proposé par ces groupes avec des personnes compétentes, donc en l'occurrence des personnes qui s'y connaissent réellement en trading, qui ont fait des études, qui sont reconnues dans le domaine. Et se renseigner, par exemple, si vous tombez sur un groupe qui s'appelle I Am French ou B-Factor, allez taper sur Google B-Factor sectaire et vous tomberez sur des articles. Renseignez-vous auprès des associations, l'UNADFI, le CCMM, le CAFES,
la Mivilude,
évidemment, pour savoir où vous mettez les pieds.
Sur les réseaux sociaux, ils se font connaître sous le nom de One Nation, comprenez en français une nation. Dans leurs vidéos, ils appellent à faire sécession. Ils vont jusqu'à dévisser leur plaque d'immatriculation pour ne plus être identifiables et mettent même parfois le feu à leur passeport. One Nation délivre à ses membres ses propres cartes d'identité ou permis de conduire.
Les nouveaux permis One Nation.
Le leader de ce mouvement, la voici, c'est elle.
Cette vague d'émancipation a été qualifiée à plusieurs reprises par des journaleux, tendancieux, en mal d'audience, de secte.
Alice Pazalmar, 34 ans, ancienne infirmière psy.
T'as pas l'air de comprendre, chère République française, c'est pas moi qui ai voulu la guerre, c'est toi qui l'as déclarée.
Près de 35 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, ses vidéos cumulent près d'1,5 million de vues. Sur une messagerie cryptée, elle est en lien permanent avec 4000 membres, disséminés en France et aux quatre coins du monde.
Extrait du JT de France 2 le 15 novembre dernier. Alors Christian Gravel, vous teniez absolument à nous alerter sur ce groupe sectaire One Nation.
Ce groupe, alors, qui n'est pas encore qualifié de groupe sectaire, mais qui en a un certain nombre de symptômes. Il permet d'incarner, d'illustrer l'émergence de multitudes d'acteurs de ce type-là qui sont à la convergence ou une forme d'hybridation entre mouvements potentiellement à caractère sectaire, mouvements totalement conspirationnistes, ça c'est une certitude, avec derrière des projets qui toujours sous couvert de discours bienveillants, empreints d'une gentillesse absolue, en lien avec l'univers, la nature, le cosmos, appelant la non-violence, et finalement dans un double discours absolu. Je tiens à rappeler que, d'une part, ce mouvement-là, il était lié à l'enlèvement de la petite Mia, en avril dernier. Donc on est là, pour le coup, dans du trouble à l'ordre public de très haut niveau, avec donc un danger potentiel. Et donc une forme de violence évidente. Je rappelle aussi que dans le cadre de cette affaire, de l'enlèvement de la petite Mia, un certain Rémi Daillé était l'un des coordinateurs de cette équipe, qui, je vous le rappelle, a été arrêté et désormais sous les verrous, étant donné que il a été mêlé aussi à une autre affaire de tentative de coup d'État, avec la volonté clairement de prendre les armes pour aller renverser le pouvoir, avec un groupe structuré de plusieurs dizaines de personnes, dont des anciens militaires, et qui étaient prêts à s'entraîner avec une branche militaire. Donc on voit bien que, là encore, on a une forme, encore une fois, d'hybridation entre conspirationnisme très fort, mouvement, encore une fois, à caractère sectaire, qui peuvent derrière se traduire par des actes résolument, évidemment, illégaux, résolument dangereux dans le cadre de la perspective d'un programme qui peut être affiché par ces leaders-là.
Jean-Louis Adenor.
Alors, ce qui est intéressant avec le groupe One Nation, c'est son aspect sécessionniste, en fait, parce que c'est un groupe qui entend s'installer. Alors, ils ont fait des tentatives pour s'installer à Sénaillac, de mémoire. Les maires se sont mobilisés pour réussir à éviter que ça n'arrive. On voit d'ailleurs à quel point c'est compliqué, hein, pour des élus locaux de pouvoir comprendre ce qui est en train de se passer, de pouvoir agir sur des groupes qui essaient de s'installer près de chez eux. Plusieurs choses. Alors, effectivement, Rémi Daillé, c'est par ce groupe que la maman de la petite Mia a pu rencontrer, en tout cas être mise en contact avec Rémi Daillé. Et au-delà de ça, on voit la difficulté le risque pour les enfants dans ce type de groupe, puisque il s'agit de retirer les enfants de l'école et de les faire vivre uniquement dans le groupe. Donc on peut imaginer les risques et les dangers qui peuvent peser sur les enfants dans ces groupes-là.
Allez, on se retrouve dans quelques instants, juste après avoir écouté Hubert Félix Thiéfen, la fin du roman.
Suis la flèche, dis-moi ce que tu vois. Je crois que les gardiens changent de voix. Suis la flèche, dis-moi si t'aperçois les chasseurs d'illusions sur les toits. Dans le ciel, comme un ouragan, l'air prend la couleur d'un voile sanglant. En sommeil, depuis 10 000 ans, on entend gronder d'anciens volcans. Dis-moi comment sortir des écrans, s'enfuir du présent, changer d'océan. Dis-moi comment écrire en chantant la fin du roman, heureux dans l'instant. Dis-moi, suis la flèche, dis-moi si tu sens la cruelle odeur des innocents. Suis la flèche, dis-moi si t'entends les sœurs fatales et leur boniment. Dis-moi comment sortir des écrans, s'enfuir du présent, changer d'océan. Dis-moi comment écrire en chantant la fin du roman, heureux dans l'instant. Suis la flèche, dis-moi ce que tu vois. Je crois que les gardiens changent de croix. Suis la flèche, dis-moi si t'aperçois là-bas au loin les jongleurs sans loi. Dis-moi comment.
Hubert Félix Thiéfen interprétait la fin du roman.
France Inter. Grand bien vous fasse, Ali Rebbi.
11h10, comment lutter contre les sectes, c'est notre thème ce matin, standard ouvert au 01 45 24 7000. Alors Jean-Louis Adenor, Timothée de Roglaudre, vous publiez donc le nouveau péril sectaire. L'une des organisations les plus célèbres au monde, c'est la Scientologie, l'église de Scientologie créée par L. Ron Hubbard, auteur de science-fiction. En quelques mots, quelles sont les croyances de la Scientologie? La Scientologie considérée comme une secte en France et comme une religion dans d'autres pays.
Alors oui, c'est intéressant de voir qu'ils ont acquis une certaine respectabilité dans d'autres pays. En tout cas, en France, on n'en est pas encore là, quoi qu'ils soient bien implantés. Alors, quelles sont leurs croyances? C'est intéressant. On le raconte dans le livre. On a également un témoin, Lucas Legal, qui a écrit son propre livre d'ailleurs, qui raconte son histoire dans la Scientologie.
Sous pseudonyme.
Alors, si vous voulez, la croyance de la Scientologie, c'est ça ressemble beaucoup à la science-fiction. Hein. C'est une histoire de d'êtres extraterrestres qui auraient diffusé sur Terre des âmes à travers des bombes à hydrogène. Enfin, c'est quelque chose d'assez surréaliste.
Je cite Lucas Legal, ouais. Je vais vous résumer leur croyance. C'est une compote faite de science-fiction inventée par le gourou originel L. Ron Hubbard. Ce n'est rien de plus qu'un outil marketing pour se faire de l'argent.
Exactement. Mais ce qu'il faut bien comprendre et ce qui est intéressant dans le cas de la Scientologie, c'est que pour accéder à ce secret qu'on vient de révéler à l'antenne de France Inter, il faut beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup d'années et beaucoup, beaucoup d'argent. C'est l'idée. C'est vraiment de faire entrer, c'est ce qu'on appelle l'initiation en fait, c'est-à-dire qu'on va faire des niveaux petit à petit en fonction de chaque niveau, découvrir un peu plus du secret, du grand secret sur les origines du monde par la Scientologie, et à la fin, quand on aura dépensé plusieurs dizaines de milliers d'euros, on découvre ce secret-là, donc cette affaire de créatures extraterrestres. Il y a quand même quelque chose de très c'est quand même assez surréaliste.
Alors il s'agit d'une organisation très très pyramidale. Quel joue par exemple le VRP de la Scientologie, Tom Cruise?
Ah bah écoutez, Tom Cruise, on l'a vu à l'époque du quinquennat de Nicolas Sarkozy, où justement il avait été reçu, enfin il avait rencontré Nicolas Sarkozy de façon d'ailleurs assez décomplexée, assez détendue. Il y avait eu cette déclaration assez surréaliste du cabinet de Sarkozy qui expliquait que c'était pas à lui de dire si la Scientologie était ou non une secte pour un mouvement dont les dérives sont quand même bien identifiées depuis assez longtemps.
Christian Gravel. De la Miviludes.
La Scientologie, elle est bien connue de la Miviludes pour des raisons évidentes, puisque nous recevons une multitude de témoignages depuis maintenant un certain nombre d'années. Même si cette organisation est un peu en perte de vitesse en France, elle reste bien implantée et elle incarne tous les stigmates un peu de la dérive sectaire, avec un récit qui effectivement s'inscrit dans le talent d'imagination et d'écriture du fondateur, puisque c'était un écrivain de romans de science-fiction, qui au moment où il produit cette doctrine s'inspire des thèses en vogue à l'époque, des années 70, développement personnel, pseudo-ésotérisme teinté de bouddhisme notamment, et autour d'une histoire s'appuyant sur quand même l'idée d'extraterrestres effectivement sur Terre, monte un système permettant effectivement, dans le cas d'un rite initiatique, mais dont la spécificité est d'être particulièrement cher et expensive. C'est qu'il faut à chaque fois payer énormément d'argent. Et c'est la raison pour laquelle un certain nombre de drames ont été constatés et d'un certain nombre de procès qui ont été perdus par la Scientologie, quels que soient ses moyens financiers colossaux à l'échelle internationale, ont démontré encore une fois le caractère hautement problématique de cette organisation.
Écoutons Lucas, un ancien de la Scientologie, qui évoque les méthodes brutales de l'organisation sur Combini.
Il faut comprendre le schéma d'organisation de la Scientologie. Il y a tout en haut quelque chose qu'on appelle l'organisation maritime, qui est composée de 4 centres ou 5 centres dans le monde. Et puis ensuite, vous avez un maillage des territoires, que ce soit en France, en Allemagne, en Espagne, etc., etc., et partout dans le monde, donc, qui pourraient être comparés à des succursales. On nous retire nos passeports. Dès que vous rentrez à l'organisation maritime, vous n'avez plus de passeport, vous n'avez pas d'argent. Chacun surveille chacun. Et tout le monde dénonce tout le monde. Ça, c'est un principe de base. J'avais ri en travaillant. J'ai été dénoncé et envoyé au RPF, donc au projet de réhabilitation par la force. Ce RPF, c'est 14 heures de travail par jour, c'est des pauses repas qui durent 30 minutes, c'est l'interdiction d'uriner, de boire, de parler avec qui que ce soit, c'est 30 secondes le matin pour la douche, c'est des tâches éminemment difficile, physique et dégradante. Au bout de deux mois et demi, j'ai perdu plus de 10 kilos. J'ai les yeux qui sortent dans des orbites et qui ont plus de couleur. Enfin, ils sont, le blanc est devenu jaune. Tout ça sous l'effet de la fatigue, de la malnutrition, et puis de la peur aussi, de l'angoisse, hein, enfin de la pression. Et je me fais l'impression, en me constatant comme ça, au bout d'un peu plus de 2 mois, d'être une silhouette, de n'être plus que la silhouette de moi-même.
Lucas sur Combini en septembre 2020, Jean-Louis Adenauer.
Pour lui avoir parlé à Lucas, ce qui est très surprenant dans son discours, c'est qu'aujourd'hui encore, on a l'impression de découvrir des choses sur la scientologie, et puis c'est la violence surtout de son témoignage. Vous me parliez de Tom Cruise tout à l'heure, la scientologie, c'est un des groupes qui a réussi à avoir une vitrine la plus respectable aujourd'hui. Ils ont quand même réussi à atteindre ce niveau-là, et pourtant on voit la violence qui s'exerce sur les membres, et on voit à la fois le phénomène d'extorsion financière qui est à l'œuvre, et le phénomène de violence physique. De camp, Lucas parle de camp quand même.
Vous l'expliquez dans votre livre, des relais dans les milieux politiques, administratifs, économiques et culturels. J'aimerais qu'on accueille Jérémy. Bonjour Jérémy.
Bonjour Ali, bonjour tout le monde.
Vous habitez Paris, vous vouliez témoigner.
Oui, je voulais témoigner parce que nous sommes en 1994. Ma copine de l'époque travaille dans une entreprise qui est tenue entièrement par la scientologie. Donc on m'avait prévenu qu'ils allaient nous séparer parce que moi je ne voulais pas entrer là-dedans. Ça a été un drame. Mais ce que je voulais témoigner, c'était de dire je me suis reposé sur l'UNADFI, qui est un groupe qui accueille les personnes, qui aide les personnes qui sont en difficulté avec des personnes qui sont dans les sectes. Et qui vraiment qui a été un très très grand soutien à cette époque-là.
L'UNADFI, Jean-Louis Adenauer, expliquez en quelques mots.
Alors l'UNADFI, c'est une association historique de lutte contre les dérives sectaires en France, et c'est vrai qu'ils font un travail qui est assez, comme beaucoup d'autres associations, je le rappelle, qui font un travail qui est très très précieux. C'est eux qui sont au contact avec les personnes victimes très souvent, et on le voit dans le témoignage de Jérémy, c'est eux qui apportent l'information, qui préviennent. Parce que avant qu'on aille en justice, il y a assez peu de cas qui finissent en justice, on a besoin surtout de prévention et d'armes pour justement réussir à comprendre ce qui se passe.
Un mot de conclusion, Christian Gravel, comment se protéger au mieux des sectes, les armes pour s'en protéger?
Il faut mettre en avant tout ce qui relève du combat de la raison contre des forces obscurantistes. Pardon pour l'expression pouvant paraître
un peu
grandiloquente, mais on est objectivement confronté à des phénomènes de ce type-là. Et tout ce qui peut permettre de contribuer à repositionner chacun d'entre nous dans une trajectoire rationnelle, critique par rapport à tous les contenus dont ils peuvent faire l'objet est fondamental. Il faut lutter contre la question de l'enfermement algorithmique aussi sur les réseaux sociaux. Et bien évidemment, contacter l'ami Vilude, puisque nous sommes à leur service pour les conseiller, répondre à leurs interrogations et les accompagner dans le cadre de problématiques avérées.
Timothée Droglodre.
Oui, juste pour dire que notre livre, c'est aussi un cri d'alerte sur le désintérêt croissant des pouvoirs publics et plus largement des élites sur le phénomène sectaire. On peut dire que le bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron n'a pas été très bon sur la lutte contre les dérives sectaires, et on espère vraiment que ce sera une thématique importante dans l'élection présidentielle qui s'annonce.
Il faut donner beaucoup plus de moyens à l'ami Vilude. Un chapitre.
On en a déjà récupéré un certain nombre. Il y a à nouveau une restructuration, il y a des moyens, il y a 1 million qui a été donné dans le cadre d'un appel à projet à 23 associations qui font un travail formidable, mais l'essentiel, c'est de pouvoir travailler avec l'ensemble des acteurs concernés, notamment les associations.
Et je renvoie à votre site, Mivilude.
Dérive avec un S, secte avec un S. .gouv.fr.
Merci Christian Gravel, merci Jean-Louis Adenauer et Timothée Droglodre. Je recommande vraiment le nouveau Péril sectaire, c'est publié chez Robert Laffont. Demain, grand bien vous fasse loisir, tout autre chose, comment se sentir mieux chez soi.